Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et bien cette semaine, après des semaines d'actu un petit peu chargées, on va revenir tranquillou, poser notre manette et revenir sur tout ce qui s'est passé au premier semestre, vous donner un peu comment on a pris la température de ce début 2026, qui était, ma foi, fort animé aussi en sortie de jeu. Avant une rentrée des enfers, on va bien appeler ça par son petit nom. Oui, il y a GTA 6 au loin qui arrive là à grandes enjambées et il y a tous les autres qui courent devant pour essayer d'exister. Ce sera notre vision de ce mois de septembre-octobre qui va nous noyer. Soyons honnêtes, appelons ça comme on veut. Et on va aussi vous parler d'une petite console qui a fait son apparition. Et évidemment, j'ai mon expert console portable aujourd'hui, Otaksu.
Eh bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, il y a un gros morceau là sur lequel il faut qu'on parle.
Il faut qu'on en parle de ce petit bébé.
Tout à fait. Sachant qu'en plus, GTA 6, c'est pour les gens qui n'aiment pas le jeu vidéo, donc on s'en fiche.
T'aurais pu dire, surtout que GTA 6 ne sera pas dessus. Arrêtez déjà tout de suite vos messages. Gardez-les pour le mois d'octobre, octobre-novembre. Et avec toi, Adibou, comment ça va?
Ça va.
Ça fait une paye, dis donc, on ne s'était pas vu.
Ça fait un petit moment, il est démoniaque quand même, Otaksu, je tiens à le signaler, mais un plaisir de faire ça avec le bro. Et c'est cool de parler juste de jeux vidéo, que de jeux vidéo. Pas ce qu'il y a autour, les licenciements, les exclusivités.
T'as vu, on a laissé ça aux autres.
Voilà, c'est très bien, donc très content de parler vraiment JV pur et dur comme à l'ancienne.
Il y en a certains qui arrivent encore. Hein, tu vois.
on est entre nous parce qu'il y a aussi des belles choses dans le jeu vidéo, des belles histoires. Et il y en a eu en ce début d'année. Donc voilà, c'est une actu à chaud complètement froide, mais de début 2026. C'est parti. On est super à chaud parce qu'on va recommencer avec... on va commencer ça par, allez, on va dire quoi, le grand gagnant du premier semestre, que je vais appeler gentiment Capcom, qui nous a sorti deux gros jeux du poids lourd. Resident Evil Requiem au début qu'on attendait, le retour de Léon, de tout le monde, et Pragmata, qui, alors, se fait attendre encore plus depuis des années, et qui finalement, pour une fois, on a eu une surprise... Une belle surprise d'un jeu qu'on attendait depuis longtemps. Adibou, on est content de Capcom.
Clairement, c'est vrai que je joue un petit peu moins en ce moment. Et pourtant, les deux jeux, je les ai faits. Et j'ai kiffé Resident Evil. Ça m'a permis bien d'apprécier là où les autres Resident Evil, notamment le 7, à partir du moment où tu changes de zone, c'est plus la même dynamique, c'est moins effrayant, c'est plus action. Et là, en fait, avec Requiem, tu as ce double gameplay qui fonctionne très bien. Et même si, à un moment, pour pas trop spoil, tu vas pouvoir aller dans une autre zone, tout fonctionne très bien. Donc, ils ont réussi à faire le meilleur des deux mondes. Donc, vraiment, Requiem, c'est une pépite. Et Pragmata, alors, c'est juste rafraîchissant. C'est juste la bonne idée de gameplay différente où tu dois pirater en même temps que tu combats avec cette petite Diane. Enfin... ils sont trop malins, trop smart, c'est beau, c'est fluide, ça marche. Genre vraiment, je ne m'attendais pas à ce que Pragmata soit aussi cool. Mais il n'y a rien à dire, la Capcom, début, c'est les bests. Il n'y a personne au-dessus d'eux pour le moment.
Otaksu, qui est vraiment celui qui ne va pas du tout prendre parti.
Non,
jamais. En faveur de Capcom, jamais.
Non, absolument pas. Non, alors... Capcom, c'est pas ma Capcom. Non, mais juste une nouvelle licence par un éditeur triple A qui ose autant de choses et le fait super bien du début à la fin. Enfin, pour moi, je suis désolé. On sait très bien que les discussions autour du GOTY vont être autour de GTA 6, même si sur le calendrier, ça risque d'être un petit peu serré pour les Game Awards. Mais je trouve que ne serait-ce que pour le simple fait que ce soit une nouvelle IP...
Pragmata,
c'est une dinguerie. Après, moi, je sais, sur le jeu, il y a marqué Otaksu absolument partout. Hein, donc, je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas exactement genre un jeu que j'aurais créé moi-même si je pouvais faire un jeu. Mais oui, j'ai pris une claque phénoménale. Et puis, c'est un jeu de tonton, quoi. C'est un jeu qui se bouffe à l'infini, qui sait être arcade quand même. Il y a de la replay value absolument partout. Et c'est l'audace derrière ce jeu que je trouve phénoménal, en fait.
C'est, alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Pragmata, c'est un jeu qu'on a vu popper il y a 6 ans, à peu près. Quelque chose comme ça, 6 ans, peut-être même avant.
Annonce de la PS5, il me semble, dans ces eaux-là. Ouais.
Et qui donc annonçait ce personnage, cet enfant, Diana, absolument délicieuse, qui en fait est un androïde. Et il y avait cette dualité entre ce monsieur scientifique avec son gros costume, qu'on ne voit que très peu finalement, et ce petit personnage angélique, mais diabolique en combat. Et donc, comment à eux deux...
Joliment dit.
C'est joli, c'est un peu ça quand même.
Tout à fait.
elle est radicale quand même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en sortir sans elle, et elle, elle n'a pas la force de frappe de l'autre. Donc, le duo est absolument parfait. Cette relation père-fille qui naît, moi, je sais que tous les papas joueurs autour de moi, ils ont fait une projection pas croyable dessus. C'est, on est au-delà du juste, du petit jeu mélo ou du jeu de bourrin.
Ouais.
C'est la rencontre de deux choses qui marchent encore parfaitement.
Et surtout une justesse à l'écriture qu'on n'attend pas forcément de Capcom. Mm. Parce que pour le coup, Capcom, ça reste quand même la maison de l'arcade à la base. Mm. Même si on a Resident Evil ou ce genre
la
de trucs. Les scénarios, des scénarios de Resident Evil, c'est pas non plus les trucs de fou, quoi. Et pour le coup, sur les previews qu'on avait fait avec Pragmata, je pense que vous aviez à peu près le même feeling de genre, c'est vachement bien, mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir ça sur une dizaine d'heures, et particulièrement cette écriture ? Parce que ça peut très vite, particulièrement chez les éditeurs japonais, il faut l'avouer, devenir très niais, très chiant, très cucu. Et au final, la ligne tenue de bout en bout jusqu'à cette fin qui, c'est plexus solaire, quoi. Là,
on
je
dis rien,
mais c'est plexus
solaire. À deux doigts, t'as accès, dis donc.
Non, jamais.
C'est exactement les mêmes choses qui t'ont plu.
Ouais, totalement. Totalement, j'ai été surpris par la qualité de l'histoire et la relation père-fille. Voilà, moi, j'ai un fils. J'ai un petit chien. Mais c'est vrai que quand tu la vois,
moins
elle est hyper bien amenée. Ouais, exactement. Exactement. Ça m'a quand même touché. Donc là-dessus, ils ont été carrés. Puis juste le gameplay, pour revenir un peu plus au jeu, juste le fait de pirater avec Diana pendant que tu es en train de combattre, de bouger, de tirer, choisir les différents nœuds, les capacités que tu as par rapport à elle.
Ce stress des premières heures où il faut maîtriser la...
C'est
où tellement faut maîtriser la mécanique.
Bah ouais, et du coup, tu es un peu perplexe. Et en fait, tu te rends compte qu'au bout de 2-3 teamfights, en fait, c'est tellement smart, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait. Il y a pile poil, à chaque fois, le bon nombre d'ennemis, c'est ni trop ni pas assez. Ouais. Et plus tu avances dans le temps, plus tu te rends compte que... Ah, en fait, le jeu est dur. Les ennemis, quand ils te touchent, ils te font très mal. Donc, il faut faire très attention. Et tout est cool. Non, vraiment, Pragmata, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment
pas juste un jeu de bourrin. Il y a vraiment, pour le coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les ajustements tactiques, vraiment dans le choix des capacités de Diana, lesquelles on fait évoluer pour compenser, justement, enfin, pour aider au piratage, à quel point c'est important.
Ouais.
En fait, ce n'est pas juste on tire. Voilà, il faut
L'ajustement du build, hein, parce que vraiment, tu peux jouer un petit peu comme tu veux. Si tu veux être super loin, commencer à hacker, faire en sorte que les ennemis s'attaquent entre eux, tu peux complètement.
Ah, mais
si tu veux genre, faire du multi-hit avec essentiellement des combos d'absolument partout, tu peux. Il y a vraiment une liberté dans la manière de gérer ce jeu qui est beaucoup plus large que ce qu'on aurait imaginé.
C'est pas juste Hugues tire et il a une gamine sur le dos. C'est vraiment... Resident Evil Requiem, on en a parlé en long, en large et en travers. Mais vraiment... vraiment, je trouvais que c'était un retour sur sur Resident Evil de ce qu'on avait aimé au début.
Ouais.
Ce qu'on avait vraiment aimé, cette dualité. Déjà, le fait de pouvoir repasser à la troisième personne, les gens fragiles comme moi m'ont apprécié. Il faut avouer ce qui est. J'avoue, là-dessus, moi, la première sur Resident Evil, autant quand j'étais jeune, ça passait crème, mais là, non. C'est plus possible.
Bah, surtout le début, il est rude.
Le début, ce n'est pas possible.
C'est horriblement
flippé. C'est trop.
J'ai trop peur.
Mais
pour ça,
Capcom, grand vainqueur de ce début d'année.
Et ça ne semble pas s'arrêter, hein, parce que pour le coup,
il
y a Onimusha qui arrive. Il faut voir que sur Monster Hunter Wilds, la prochaine extension, de toute évidence, ils sont un petit peu foirés sur le lancement, mais ils ont répondu à absolument tout ce que tout le monde voulait. Ils sont en train d'optimiser RE Engine en plus pour faire tourner tout ça sur Switch 2. Et en plus, ils en font profiter Dragon's Dogma 2. Capcom ne s'arrête jamais, en fait.
Ouais.
C'est genre, d'accord, continuez, il n'y a pas de problème.
Et tout ça avec une facilité déconcertante. On vous met ça, c'est bien, regardez.
Ouais, moi, j'aime et ça marche tout de suite.
Dans les gros, les gros qu'on attendait, l'autre succès, c'est Forza Horizon 6. Et on l'attendait, il est au Japon, il est assez quand même monumental.
Oui, complètement.
Il faut avouer ce qui est. C'est votre cam ou pas ?
Pas du tout, mais il y a le buff Weeb, donc le buff Japon, qui fait que, quoi qu'il...
Forza buff, Forza au Japon.
Voilà, ça va marcher, c'est très bien, tu vois. Donc non, moi, les jeux de course ne m'aiment pas. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à jouer à des jeux de course, parce que c'est pas réciproque, tu vois, il n'y a pas un amour réciproque entre eux et moi.
Mais la balade touristique, le côté touristique du jeu, plus.
Très chouette. Ouais, là, pour le coup, c'est plus sympa de se balader plutôt que de faire des... Enfin, moi, je suis très burn-out, tu vois. Moi, vraiment, le dernier jeu de course qui m'a marqué, c'était burn-out, parce que c'était très arcade, très fun. Il y avait ce côté un peu balade malgré tout. Et c'est ce que j'aime bien dans Forza, mais après, c'est le maître incontesté aussi dans sa catégorie. Il est magnifique, il est profond, il est long. Et en plus, se passe au Japon, donc voilà, il a tout ce qu'il faut là où il faut.
Et puis ils se sont fait plaisir sur plein de trucs, genre t'as une course où tu fais la course contre un mecha qui te vole au-dessus de la tête, et ils ont été vraiment à fond, quoi. Ouais,
tu vois, parce que pourquoi pas.
Parce qu'on sait qu'on va parler à des Weebos, on leur fait plaisir.
Ils ont joué à fond la carte 1, touristique, on voit à peu près tout ce qu'on veut, culturel, ils sont vraiment... Je trouve que moi, je suis plus Forza Horizon que Motorsport parce que j'adore cette liberté aussi et ce côté de faire n'importe quoi, comme n'importe quelle personne qui n'a pas son permis et donc qui se venge dans les jeux. Il faut avouer ce qu'il
est.
Là, c'est un peu plus en ville, donc c'est plus compliqué. Mais, mais ils sont allés vraiment rendre hommage. Moi, ce que j'aime bien, je suis moins fan du Japon que toi. Mais je trouve que c'est un très bel hommage culturel. Alors peut-être avec une version occidentalisée plus. Il faut aussi le dire. Mais je trouvais que le jeu respectait, ne serait-ce que déjà, vous ne pouvez pas tout détruire dans le jeu. Et ça, c'est quand même pas mal.
Wink Wink Assassin's Creed aussi.
Voilà. Assassin's Creed Shadows avait ça aussi, le respect des cultures et des choses. Je trouvais ça très bien. Évidemment, Forza Horizon 5 avait cartonné sur PS5. Ils se sont dit, on va faire patienter les joueurs de PS5 pour celui-ci. Et ça avait beaucoup râlé. On les comprend un peu. Et le succès est au rendez-vous. Comme d'habitude, les jeux... Les jeux Playground, Forza version Playground, ça tape que des métas.
C'est une formule qui fonctionne bien, quoi. Parce qu'on oublie un petit peu qu'Horizon 5, c'était aussi, si je ne m'abuse, le Mexique. Donc toujours l'idée de mettre en avant une autre culture. Et je pense que Horizon a trouvé justement cette patte, cette marque de fabrique de mettre en avant des cultures à chaque épisode. Voilà. Et ça fonctionne parfaitement bien.
C'est le Forza Horizon 3, je crois, qui était un peu en France, un peu en Italie, qui était plus méditerranéen, c'était plus prétexte.
Ouais.
Là, ils ont trouvé, je suis d'accord avec toi, totalement une belle recette. Et ça s'est vu dans les chiffres. Comme quoi, il y a de bonnes nouvelles de temps en temps chez Xbox. L'autre jeu qui était attendu en début d'année et qui n'a pas déçu, eh bien, c'est 007 First Light. Là, pour le coup, on avait un peu peur que ce soit, un Hitman avec des cheveux.
Et c'est bien dit.
Je leur ai dit, Yo Interactive, j'ai jamais vu autant de chauves dans un jeu. En personnage secondaire, ça m'a fait délirer.
Moi, ils m'ont déçu, mais bon. Mais... Pour une fois qu'on avait de la représentation.
Attends, t'es représenté dans le James Bond. Vous l'avez fait, messieurs?
Non.
Je l'ai commencé, j'attends maintenant qu'il y ait le patch de pass tracing, parce que sur PC, je veux que ça envoie du bois, quoi.
Ouais. Voilà, et ben, tu ne seras pas déçu, parce que je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement bien réussi. Et pareil, on parle de respect de culture, de licence. Le respect de la licence 007 dedans, il est très très proche. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que évidemment, tous ceux qui connaissent surtout les films voient des références. Ceux qui ont lu les livres, il y a beaucoup de références, notamment l'existence de la cicatrice, de son tempérament, reconnaissent la patte vraiment.
Ils ont vraiment réussi, IO, je trouve, à récupérer ce flegme anglais qui est un peu signature de Bond, tout en ayant ce côté un peu abrasif, jeunesse, je fais un petit peu n'importe quoi et je regarde pas derrière moi. Et pour le coup, je trouve que ce soit graphiquement ou en termes de gameplay, la liberté qu'ils apportent, on l'attendait pour le développeur d'Hitman naturellement, mais ça marche vraiment bien tout ce qu'ils rajoutent, à part, moi je dirais, les séquences de voitures qui sont...
Ouais, je suis d'accord, c'est pas Forza.
C'est voiture à balai, quoi. Mais ça marche, quoi qu'il arrive, ça marche.
Mais surtout le personnage. Moi, j'avais des doutes sur le personnage. J'avais vraiment peur que, on connaît Hitman. Moi, j'aime beaucoup Hitman, que ce soit un peu trop proche. Et c'est un vrai James Bond en devenir. Il est, pour le coup, les trailers ne lui rendaient pas hommage.
Ouais.
Le jeu lui rend beaucoup plus hommage dans la construction du personnage. Il est nettement moins tête à claque qu'on ne pouvait le craindre. Et on comprend comment il peut devenir potentiellement à terme le James Bond qu'on connaît plus.
Ouais.
Je trouve, dans mes bonnes surprises, moi, de début d'année, je mets 007. Et puis, il y a eu, évidemment, comme à chaque début d'année, son petit lot de curiosités, de choses étranges qui arrivent, des choses attendues qui confirment bizarrement, et je pense notamment à Crimson Desert, dont on avait entendu parler et reparler, qui a fait beaucoup parler en début d'année. Mais alors, moi, il est perdu de vue, le jeu, aujourd'hui.
Mais il est beau. Voilà, c'est un jeu beau. Mais
ça se résume à ça.
Parce que pour le coup, je l'ai lancé à 3-4 heures. La gestion de la manette est une catastrophe et au clavier, ça rend pas forcément mieux. En gros, si vous voyez quand vous jouez à un MMO sur PC qui a un mode manette, c'est plus ou moins ça, dans le sens où tu t'attends à avoir une certaine liberté façon Assassin's Creed et au final, tu te retrouves avec une séquence qui fait un peu plus point and click qu'on essaie de réadapter. Il y a des trucs hyper chelous. Mais surtout, en fait, je trouve le jeu effectivement très beau, mais L'histoire est relativement mal écrite, t'as du mal à te prendre tout de suite sur le banc. Et puis le gameplay est un peu mou, je trouve qu'il y a,
pourquoi
y a
ça quelque chose qui marche pas.
Mais parce que tout le monde l'attendait, parce qu'il était incroyablement beau.
Ouais, il a eu des précommandes de fou.
Voilà, il a eu des précommandes de fou, et c'est une réussite technique, le jeu, qui pour moi, on ne peut pas aller contre. Mais au-delà...
Toi, t'as pas accroché.
Maintenant, ce que j'ai envie de leur donner quand même, c'est que depuis la sortie, ils l'ont rendu un petit peu plus bac à sable, en fait, le jeu, où ils ont tendance, du coup, à répondre aux attentes des joueurs, à dire « Ah, vous voulez faire ça ? Bon, on va le faire. On peut collecter des chats maintenant dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut. » Et pour le coup, je pense que c'est un bon moyen de rajouter de l'intérêt au jeu. Quitte à avoir un bac à sable, écoutez, on va vous laisser faire exactement tout ce que vous voulez dedans, on va vous rajouter des trucs. Donc, tant mieux pour ça. Mais c'est pas ma cam, non, pour le coup. Ça aurait pu l'être.
Gros carton, Crimson Desert, malgré tout. Mais il a fait beaucoup parler, et c'est vrai que je pensais qu'il durerait plus. Je pense qu'on doit avoir les gens qui ont lâché et les gens qui en sont à 500 heures dessus.
Ouais, typiquement ce genre de jeu. Ouais. Et les modeurs qui, je pense, prennent à cœur joie sur ce jeu.
Bah, mais tu dois t'éclater sur ce type de jeu, ouais, clairement. Ouais,
ah, mais je pense que c'est un jeu... On réussira à convaincre Otaksu de retourner voir ce qui s'y passe.
Ah bah, un modeur va me le rendre parfait d'ici un an et je vais m'éclater à faire n'importe quoi dedans, ça c'est sûr. Mais ça aura plus la gueule du jeu qu'on voit là.
Ça, c'était le poids lourd qu'on attendait qui a semé... Alors, parce qu'on parlait quand même... On parlait tout à l'heure de Pragmata en GOTY. Tout le monde criait avant la sortie que ce serait le GOTY. Je pense que pour être un GOTY, il faut qu'aujourd'hui, on ait encore envie d'en parler naturellement.
Ouais.
Des mois après, je ne suis pas sûre. En revanche, ce qui fait toujours plaisir, c'est qu'il y a toujours ces petits jeux indés qui pop et qui nous rassurent sur l'état du jeu vidéo, sa capacité à innover et tout. Alors, on a beaucoup parlé de Mina the Hollower, alors que moi, à titre perso, je n'ai pas fait. Je ne sais pas vous, mais alors qu'il cartonne.
Je veux le saigner, j'attends que ça. Pour le coup,
c'est
développeurs de Shovel Knight déjà à la base, et c'est un hommage plus qu'appuyé à Link's Awakening, donc le Zelda de
Game Boy. C'est très Zelda-like. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce qui me tente un peu d'y aller. Après, je suis un peu plus lassée de ce type de jeu que je trouve revenir un peu trop souvent.
Ouais.
Là-dessus, tout le monde m'en a dit que du bien. Je me suis dit, donc j'irai voir. Ça me rappelle Zelda.
Ça remonte très souvent, mais jamais avec le talent de... Je crois que c'est Yacht Club, le développeur. Parce que vraiment, Shovel Knight, c'était pareil hein, quand il est arrivé. Hein. C'est genre, oui, bon, tout le monde fait un platformer à la Megaman Cross Duck Hunt. Shovel Knight, c'est juste infini. Enfin,
quand tu
atteins un tel niveau de qualité qu'en fait, tu es évident. Tu vois, et j'ai bonne confiance sur le fait que Mina the Hollower ce soit le même niveau. Pour le coup, Menro l'a commencé, le défonce et l'adore.
Ah ben c'est pareil, Menro qu'on salue, c'est tout à fait sa came de jeu, ça.
Exactement. Et moi, j'attends que ça, que d'avoir du temps pour le faire. Mais il y en a beaucoup des jeux en ce moment, donc compliqué.
Et c'est pas fini.
et c'est pas fini. Et alors, l'autre jeu absolu qui est un carton, c'est Mecha Chameleon. Je ne sais jamais comment on le dit.
Mecha.
Alors,
en fait, c'est juste dire très. Donc c'est très caméléon le titre, parce que c'est un jeu japonais par un développeur
absolument
japonais.
Génial, de cache-cache.
C'est insane.
C'est dingue.
Incroyable.
Et ils en sont à, j'ai vu un chiffre délirant, c'est 10 millions de vues, un truc comme ça.
Des 10 ou 12 millions, un truc comme ça. Ils ont fait des records absolus pour un jeu qui a été développé en quelques mois
par
deux gars rapidement au Japon. Quoi.
On est sur un truc complètement fou de jeu. J'adore, alors surtout ce que j'adore dans ce jeu, au-delà du concept de se cacher donc, dans des décors et d'essayer de trouver les autres, c'est que, comme évidemment sur ce genre de jeu, ça arrive très souvent, il y a tous les cheaters qui déboulent.
Ouais.
Et donc, mais vraiment, regardez les vidéos tellement c'est drôle, il y a des gens qui se sacrifient pour la communauté et donc qui se dessinent des flèches pour montrer où est caché, le cheater. Je trouve ça génial. Je trouve que ce genre de jeu fait un bien dingue parce que voilà, le concept, on se dit, mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant ? Toujours. Ça entraîne des gens qui aiment, c'est ça que je trouve fort, et il faut maintenir les studios indépendants et les aider vraiment pour ce genre de jeu, de créativité. Ça fait venir les gens parce qu'ils sont heureux d'y aller, et donc ils protègent leur jeu. Et donc je me souviens du temps où il y avait eu, dans un autre registre, Fall Guys et tous les cheaters, et les gens qui se sacrifiaient pour dire « on ne veut pas de ces gens-là dans le jeu ». Et
bien il se passe exactement… pour le faire tomber avec toi qui t'a perdu.
Et c'est exactement ce qui se passe avec la communauté de ce jeu, qui pour protéger son jeu et sa bonne idée et sa bonne ambiance et son truc, voilà, dénonce tous les cheaters qui sont… J'adore. Tu l'as fait, Sadibou ?
Non, je ne l'ai pas fait parce que jeu de streamer, a priori, mais Otaksu m'a convaincu
mais oui,
du contraire.
C'est ce que nous disait Otaksu.
Même si malheureusement, il a perdu sa partenaire de vie. Mais en tout cas, effectivement, le côté jeu pour streamer, mais comme tu dois dessiner, etc., rajoute une vraie technicité qui fait que il a plus de poids dans mon cœur que des jeux pour streamer qu'on voit, genre simulateur de ce que tu veux et on n'en peut plus de ça.
Ouais.
C'est vrai que ça, ça a l'air d'être particulièrement stylé. Mais terriblement difficile, moi qui ne sais pas dessiner rien du tout, je vois ça, c'est déjà une barrière pour moi, je sais que je ne vais pas y jouer, mais par contre je trouve ça hyper impressionnant et le concept est juste fou.
Mais c'est, le concept est dingue, mais je suis une quiche en dessin.
Pour le coup, je peux vous rassurer là-dessus, parce que là où madame sait dessiner, moi je suis une quiche absolue, et en fait, il y a quelque part l'aspect cachette qui nous aide, nous, gens qui sommes
Jean
handicapés
lambda.
De la main, j'ai envie de dire, parce que trouver la bonne cachette et juste prendre la bonne couleur pour qu'on ne te voit pas tout de suite, ça a autant d'intérêt que de faire une peinture magnifique. En fait, dans l'idée, l'esprit de gameplay, tu peux autant survivre, et c'est bien, que survivre alors qu'on t'a vu très longtemps, et c'est quand on t'a vu et que pour autant on t'a pas chopé que tu chopes le plus de points.
Okay.
Donc forcément, il y a un intérêt à savoir bien dessiner et se cacher aux yeux de tous. Mais du même temps, tu gagnes quand même si on te trouve pas. Quoi.
Oui, quoi qu'il.
Donc,
peu importe,
tu vois. Moi, je me suis mis à un moment sous une chaise comme si j'étais un espèce de barreau supplémentaire et tout en noir. On m'a pas trouvé du tout, il n'y avait pas de problème. Quand ma meuf avait essayé de faire un truc magnifique, se reprendre dans une peinture, etc., défoncé en deux secondes, tu vois.
T'as combien de temps pour te cacher ?
En fait, les parties sont customisables, mais généralement, tu peux avoir entre 60 et 2 minutes, c'est généralement 60 secondes et 2 minutes, c'est généralement les trucs par défaut, mais tu peux faire des parties où tu laisses un temps infini aux gens pour
Moi, je regarde
dessiner.
Parce que je suis nul en dessin, donc je regarde les gens qui jouent.
Et tu peux continuer à dessiner pendant que t'es caché, tu vois. Donc pendant que les gars sont pas dans la même salle que toi, tu te rajoutes, t'affines et tout.
C'est cool.
Mais allez tous jouer donc à Metcha Caméléon.
Ouais.
Et alors, Adibou, toi,
oui.
Ton petit jeu,
bah.
Slay the Spire 2, je ne l'ai pas fait, j'avais fait le 1.
le 2, c'est Bis Repetita, il est en accès anticipé. Donc, il n'est pas encore totalement terminé. Il y a plein de mises à jour qui se font au fur et à mesure, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc. Forcément, il y a des cartes. Hein, parce que si je suis là, c'est pour parler de cartons. J'allais rebondir sur Capcom parce qu'avec Magic l'Assemblée, il se passe des trucs. Mais bon, je vais rester calme et je ne vais pas parler de ça. On va parler plutôt de TCG et de ce deck building roguelike qui reprend les mêmes mécaniques du premier. Vous avez une tour, il faut défoncer tous les méchants et vous avez des personnages avec leurs propres caractéristiques. Et pour défoncer tout le monde, eh bien, vous allez jouer des cartes et vous allez améliorer votre deck. Donc voilà, vous avez le guerrier.
Pourquoi je pose la question de pourquoi ça lui plaît ? Je comprends pas.
Il y a deux trucs que j'adore.
Des jeux et des cartes.
Bah c'est
que demande le peuple ?
Moi, ça me va totalement. Et pour n'avoir jamais fait le premier, que j'ai entendu, mais vraiment dithyrambique les gens qui jouent, mais tu devrais jouer à ça, c'est ta cam, etc. Vous aviez raison. C'est littéralement ma carte.
Je vous ai entendu. Je vous ai compris.
Donc il y a clairement, vous avez totalement raison. C'est efficace, c'est fun, on a toujours envie d'y revenir. Même s'il y a ce côté frustrant d'accès anticipé, des fois tu débloques quelque chose. Ah, c'est un accès anticipé. Vous le saurez la prochaine fois, t'es en mode. Ah, bon, tant pis, je vais relancer une run. C'est pas très grave. Et c'est vraiment très chouette. Et vraiment, ce qui est impressionnant aussi, mais ça doit être pareil pour le premier, je pense, c'est que vraiment chaque personnage a ses propres caractéristiques et sa propre façon de jouer. Et en plus, il y a un mode multijoueur qui a l'air d'être totalement dingue, tous les gens qui jouent en multi, mais me dit il faut qu'on joue ensemble.
Oui,
tu verras, le jeu, il
monsieur.
Est totalement différent, il est juste dingue, donc j'ai très hâte de retrouver des potes et de pouvoir y jouer. Mais ouais, Slay the Spire 2, accès anticipé, c'est de la frappe, quoi. Et ça reprend les mécaniques du premier en mieux, j'imagine, ou en tout cas en faisant plus attention à l'équilibrage, en rajoutant de nouvelles cartes, de nouvelles mécaniques et tout et tout.
Slay the Spire 2 qui a très très bien marché, alors que Adibou n'y avait pas encore joué à ce moment-là.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ? Tout ça pour vous dire qu'on vous a dit ce qui nous a plu de ce début d'année, parce que vous allez avoir une rentrée particulièrement chargée et que vous avez un petit peu intérêt à vous prendre au mois de juillet le retard du début d'année, parce qu'évidemment, on ne le répète que à peu près toutes les 30 secondes, GTA 6 arrive le 19 novembre. Et donc, tout le monde s'est précipité entre la fin août et mi-octobre, pour ne pas prendre trop de risques. Parmi les sorties cet été, on a pu jouer avec Otaksu à Marvel Token Fighting Souls.
Tout à fait, le jeu de combat. Alors pour le coup, c'est un petit peu l'esprit du Marvel versus Capcom, mais pas vraiment, hein, parce que c'est dans la subtilité qu'on voit tout ça. On est sur un jeu de combat en équipe 4 contre 4, mais en vérité, le jeu fait vraiment attention à ce que tu n'aies pas forcément à prendre 4 personnages, et à se rendre un petit peu plus accessible sur ça. Pour le coup, les premières bêtas, pour moi, étaient un petit peu molles, un petit peu lourdes, le jeu était un peu lent. Mais ils ont vraiment amélioré les choses avec le retour de la communauté des jeux de combat. Aujourd'hui, on a eu des tonnes et des tonnes d'annonces, notamment la dernière équipe avec Blade et Deadpool. Et oh là 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 là.
J'ai fait la dernière version. Donc ouais. Toi, tu as essuyé les plâtres. Moi, je profite des retours. Ça va vite. Hein.
Oui, maintenant,
je peux te dire que nerveusement...
On a eu l'avantage, là, récemment, c'était l'Evo, donc le plus grand tournoi de jeux de combat mondial à Las Vegas. Et on a eu un tournoi dessus, avec la dernière build, etc., pour vraiment se rendre compte que ouais, le rythme, maintenant, est beaucoup plus péchu. Et en fait, les développeurs ont, dans la subtilité, bien sûr, les trucs qu'on creuse vraiment en compétitif, vraiment poussé à faire en sorte qu'on soit motivé à utiliser les autres personnages, finalement. Okay. Donc, on peut, en tant que débutant, rester sur une forme très, très simple et classique, et en tant que voilà, joueur compétitif qui creuse, aller beaucoup plus loin dans le système de combo maintenant. Donc c'est magnifique. Puis, ce Deadpool qui fait des références à tous les jeux de combat
ever. Ah non, mais ce Marvel Tonkon, en fait, pour vous expliquer, nous, on a fait du 1 contre 1. Vous choisissez 4 persos pour faire votre équipe, mais vous n'avez pas les 4 tout de suite. Il faut réussir des combos, battre votre adversaire, parce que c'est en 3 victoires, 3 rounds, ça c'est au meilleur des 5, en gros, pour, au fur et à mesure, débloquer les autres personnages qui vont venir en soutien, comme dans des jeux classiques de baston. Vous pouvez les appeler en soutien ou switcher au moment où vous les avez déjà débloqués. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'ils reprennent un univers méga connu et qu'il y a des références. Déjà, sa chambre pré-combat, et il y a 1 milliard de références dans le décor. Donc évidemment, si vous êtes comme moi, de temps en temps, vous regardez dans le décor, vous vous prenez des nions et, et des KO. En revanche, j'en ai mis quelques-uns de combos pas mal. Je fais coucou à Nanix, à qui j'ai joué, qui est extrêmement fort. Et donc, quand il se retrouve face à quelqu'un comme moi qui est imprévisible parce qu'elle appuie sur tous les boutons, ça peut faire mal. Non, Nanix est très très fort, je le dis. Et en fait, j'ai bien aimé le dynamisme de ce jeu.
Tout à fait.
Je ne dis pas que j'y passerai des heures et des heures, mais c'est extrêmement plaisant à jouer. C'est très dynamique. Les personnages Ghost Rider, notamment, qu'on voit derrière moi, vous en avez deux à prendre. Vous avez lui et une autre nénette qui sont absolument injouables. Et je pense que ceux qui vont les maîtriser vont devenir injouables. la celle avec son épée, dont j'ai oublié le nom, qui va me revenir.
Magic,
merci. Qui est absolument injouable. Pour les gens qui vont la maîtriser, ça va être un cauchemar pour les autres.
C'est ce qu'on appelle un perso à setup. Donc, si tu ne connais pas les setups, c'est injouable, effectivement.
Parce qu'ils ont tous leurs petits pouvoirs, ils ont tous leurs trucs. Vraiment, moi, j'ai pris un vrai plaisir. Il y a une démo qui arrive...
Il y a une bêta ouverte. Alors, pour le coup, il sort sur PS5 et PC. Il va y avoir une bêta ouverte, effectivement,
fin
juillet.
Le PC, attention, parce qu'ils ont annoncé que ça serait peut-être bloqué.
Là, il faut un compte PSN obligatoire. Ils nous font une Helldivers 2 une nouvelle fois.
Il faut arrêter
et
ça.
Et cette fois-ci, je pense qu'ils ne vont pas bouger. Mais voilà. Un dernier truc que je voulais souligner quand même sur Marvel Token, c'est que, pour le coup, enfin, ils s'éloignent du MCU et ils ont laissé Arc System Works, qui est le développeur derrière, qui est connu notamment pour Dragon Ball FighterZ, mais aussi pour Guilty Gear, les vrais savent. Ils ont laissé Arc System Works reprendre totalement la DA du jeu et des personnages. Donc il y a une vraie patte qui n'appartient qu'à eux, pour le coup, sur ce jeu. Et ça laisse aussi libre de récupérer n'importe quel perso. Là où, quand ils ont essayé de faire Marvel vs Capcom Infinite, les producteurs ont fait n'importe quoi autour. Là, ça y est, ils ont compris qu'il fallait laisser les gens libres. Donc rien que pour ça,
Il est très beau. Franchement, il est très beau. Ça fait partie des jeux de rentrée sur lesquels il faudra garder un œil avant que ce soit la cata.
Toi, tu vas le lâcher rapidement. Moi, je vais me buter dessus.
Ah, mais toi, je sais. Mais moi, je vais y aller parce que c'est typiquement un jeu quand tu es en vacances et que tu es avec tes potes et que tu as envie de te défouler.
Petite note, l'Evo France sera le premier tournoi officiel autour de Marvel Token.
Exactement. Le fameux qui arrivera au mois d'octobre à Nice, revient au mois d'octobre à Nice. Dans les sorties qu'on vous recommande aussi, il y a Resonance Plague Tale Legacy, auquel j'ai pu jouer aussi, qui est donc un dérivé des Plague Tale Requiem, un spin-off autour du personnage de Sophia. Alors, on est dans le même univers, ça se passe avant, mais on est un peu dans le même mood, beaucoup plus violent, beaucoup plus dans les combats, dans la réflexion aussi. Il y a une dimension mythologique, j'essaie de pas spoil parce qu'il y a quand même, même s'ils ont montré beaucoup de choses, gardez un œil sur ce nouveau jeu Asobo. Moi, j'ai beaucoup aimé. On attend de voir la version définitive qui arrive le 27 août. Mais il y a quelque chose qui est intéressant de celui qui nous sort des plectels habituels avec Amicia et Hugo, qui ne sont évidemment pas là, qui est intéressant, qui est une trame intéressante, surtout sur l'écriture. Mais en revanche, soyez prévenus, c'est un petit peu plus violent.
C'est bordelais, donc c'est gavé bien.
Voilà. Et alors, quelqu'un qui dit c'est gavé, c'est vraiment un gars de Bordeaux.
Ah, terrible.
C'est vraiment un gars de Bordeaux. Il y aura aussi un embouteillage tout début septembre, puisqu'on parlait d'Denis Mouchat tout à l'heure, qui avançait de 3 semaines son arrivée au 4 septembre pour se frotter à The Blood of Dunwalker, le jeu de Rebel Wolves, les anciens de The Witcher, qui m'a fait bien meilleure impression, je ne sais pas vous, mais au Summer Game Fest, comparé à ce qu'on avait vu avant, où j'avais peur que ce soit un peu trop Witcher-like, facile. J'ai envie de croire qu'il y a quelque chose d'autre.
J'ai peur.
Otaxou et pas me regarde, mais genre, qu'est-ce qu'elle raconte ?
Non, je suis avec toi. Mais
cette histoire de vampire, de multidimensions
et époque. En fait, j'adore le contexte du truc. Le problème, c'est que, on l'a vu ces dernières années, les bonnes personnes qui partent des bons développeurs ne font pas nécessairement des bons jeux au bout. Stormgate, Man's Eye, etc., etc. Et j'ai un petit peu peur de cette production B, un peu, qu'on voit aussi souvent passer, où il y a des gros budget mis derrière des gros noms et au final les jeux sont vraiment moyens voire mauvais.
Il a une bonne cote là, les premières
j'ai pas vu pour le coup les premiers
retours. Ouais. Ça a l'air de s'annoncer plutôt pas mal.
Mais face à Oni Moucha.
Mais moi je sais, c'est deux écoles hein.
Parce qu'Oni Moucha, il est bien.
Oni Moucha, il est bien.
Ah,
moi j'ai joué, il est bien.
Ah, faites la démo hein, elle est là,
la démo, ouais. Franchement j'attends de voir sur la durée aussi ce que ça vaudra, mais
Encore une fois, c'est du label Otaxu, donc je suis tout sauf objectif, mais pour le coup j'adore quoi.
Dans les jeux que vous attendez à la rentrée, il y a quoi Adibou?
Onimusha. Je pense qu'on va rester sur
Merci,
Capcom,
fin de l'émission.
C'est terrible. Non, Onimusha, effectivement, si j'avais une PS5, j'aurais bien testé Marvel aussi, enfin Wolverine, mais bon, j'ai pas de PS5, donc je vais passer à la trappe.
J'attends de voir aussi, donc, parce que c'est une violence. Est-ce qu'on a vu PlayStation State of Play là, avant le mois de juin?
Je trouve trop guidé pour le coup. Tu vois,
on attend de voir.
Ouais, j'attends de voir, mais j'aurais kiffé retrouver un beat them all Wolverine vraiment vénère avec quand même un système. Et ce qu'ils nous ont montré, j'ai trouvé que la séquence était quand même très scriptée. Ouais. Et quand tu ouvres une séquence de Wolverine avec un moment où il essaie d'être discret, je suis là, non, c'est Wolverine, les amis. Enfin, je veux pas être discret, je veux tout. Je veux faire du hachis par mentir.
Après, ils explosent tous parce que j'ai kiffé. Effectivement, j'étais mi-fig, mi-raisin, mais je trouve que les animations sont folles. J'avais jamais trop l'impression que c'était ultra répétitif dans l'action. Donc, ça, pareil, dans un jeu où tu appuies 1000 fois sur carré dans l'idée, je trouvais ça plutôt intéressant. Et effectivement, le mot sang était au centre du développement. A été dit par les devs, genre voilà, nous le,
ah bah, c'est le carnage,
hémoglobine, c'est le centre du bail, et le mec en fait, enfin Wolverine, il est noyé,
il est violence,
c'est le, regarde ça, il a du sang,
il est repeint,
partout quoi.
Il ne boit pas d'eau, il boit du sang, ce monsieur.
15 septembre pour Wolverine, le Wolverine d'Insomniac.
Voilà.
Parmi les autres sorties aussi, il y aura Contrôle Résonante.
Aussi, totalement.
Le retour qui arrive pareil dans ce fameux mois de septembre des Enfers. Et on a oublié de vous citer avant, il y a le Halo Evolve campagne qui revient, auquel j'ai joué, qui est pas mal, qui était le remake du premier et franchement qui est intéressant en version remake. On a parlé dans l'émission précédente d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, qui est pareil dans la version remake, est plutôt pas mal. Je vous encourage d'ailleurs à aller écouter Jean Guédon, le directeur créatif il y a 13 ans, qu'on a eu en interview, dans une longue interview qui revient là-dessus, et sur ce qu'il veut faire aussi, des 20 ans l'année prochaine de la franchise. Et à plus long terme, des jeux, il n'y en a plus quoi savoir en faire. Et peut-être pourrez-vous jouer, attention, transition facile, sur la belle petite machine qu'a le sieur Otaxu devant lui, dont tu vas nous parler.
La machine de guerre.
Hein. Qui est la Nessiclo 8XAI+.
Tout à fait.
Parce que à part Capcom sur Street Fighter, personne n'a fait aussi long.
J'avoue que j'avais pris le pli de les prononcer à la Capcom, donc je dis EX,
EX, plus mais Pro Max, le Pro Max et tout. Il faut savoir que nous avions testé la première avec Otaxu il y a de cela quelques émissions d'un monde entier et qu'on n'avait pas été gentil.
Ah mais c'est simple, la première MSI Claw était complètement buggée et était plantée au possible.
Non, mais
la deuxième MSI Claw était mal configurée.
Voilà.
Et planté aussi, j'en ai envoyé des logs à Intel pour les aider à débugger le truc, hein, donc je sais de quoi je parle.
Est-ce que la troisième est la bonne ?
Ça y est, Elle est, bah pour le coup, elle est vachement bien.
alors là, je te laisse parler, je donnerai mon avis après, mais tu es le grand expert.
Bah pour le coup, je vous avoue que j'ai pas déconné avec celle-ci, puisque j'ai fait plus de 250 mesures sur.
Allez voir sa vidéo sur sa chaîne Otaksu sur la console. Il y a des mesures dans tous les sens.
Ouais, je me suis dosé comme pas permis, et c'est assez simple par rapport à sa concurrente directe qui est la ROG Xbox Live X. Au maximum de puissance, on a plus 50% de puissance en plus.
Ah, c'est...
Donc c'est déjà beaucoup, hein, surtout dans un contexte où les SoC, donc les puces, n'évoluent pas forcément drastiquement. Arriver à avoir plus 50%, c'est énorme. Ça fait aussi que du coup, elle passe des jeux qui passent difficilement sur d'autres plateformes. Là, en ce moment, je suis en train de me refaire Clair Obscur, et pour le coup, ça passe vraiment proprement sur ça. Sachant que bon, Clair Obscur, ça tourne à 30 FPS, mais si vous jouez à Clair Obscur à 30 FPS, vous n'avez pas compris le jeu vidéo. Il y a des paris, les amis. Paris, il faut au moins 60, hein, mais bref. Même si on ne va pas au maximum de performance, parce que forcément la batterie encaisse, même au milieu, en fait, on a une courbe qui reste constamment en évolution et en optimisation. Alors que sur une ROG Xbox Live X, dès que tu arrives à 20 watts, tu trouves le plateau.
Ok.
Donc, ça veut aussi dire que quelque part, la puce, il y en a encore un petit peu dans le ventre.
La puce Intel, là, honnêtement, il faut avouer ce qu'il y a au
niveau
puissance.
Elle est ultra vénère.
Et un truc qui était une promesse de la première, et là-dessus, on les avait épinglés sérieusement, MSI, l'autonomie.
Bah, pour le coup, on est à l'exacte même autonomie que la ROG Xbox Live X.
Alors, moi, j'en ai plus.
Près.
Donc, je pense que ça dépend de comment on joue.
Ça
en mode standard, moi, je suis beaucoup plus standard que toi. On tient nettement plus longtemps. Alors qu'avant, oui. Que ma Xbox, ROG Xbox Live, pareil dans la série des noms compliqués, Sposa, je tiens plus longtemps avec celle-là. Bah, il y a un écran plus grand, pourtant.
Il y a un écran plus grand.
Il n'est pas OLED, il faut bien le préciser. Il n'est pas OLED comme chez Xbox.
IPS LCD, alors Xbox, pour le coup, c'est toujours IPS LCD, mais c'est la Switch 2 qui, pour le coup, est passée à l'OLED ou le Steam Deck OLED,
voilà.
C'est dans le nom. Mais pour le coup, en termes de mesure et de performance, on est à l'exact même niveau, alors vraiment exact, que la ROG Xbox Live X ou ROG Xbox Live classique. J'ai un peu l'impression qu'ils ont le même fournisseur de dalles.
Oui, je pense. Elle est juste plus grande.
Elle est juste plus grande, de 1 pouce.
120, elle fait 8 pouces en Hertz.
Elle fait 8 pouces, 120 Hertz, VRR, sRGB uniquement, hélas. J'aimerais qu'il y ait plus de couleurs, hein, les couleurs étendues, les espèces de couleurs. On a le DCI-P3 qui aujourd'hui est même sur l'entrée de gamme des smartphones, donc j'aimerais bien le retrouver aussi sur les consoles portables. Mais je comprends aussi que trouver le VRR, 120 Hertz, etc., qui sont les vrais trucs qu'on veut, c'est plus compliqué à bon prix, particulièrement aujourd'hui.
Ah ouais, hein, c'est clair. Et
parce
d'ailleurs,
est-ce qu'on parle du prix?
Eh ben, c'est un peu. J'allais te demander si avant le prix, aujourd'hui, tu recommanderais MSI sur ce produit-là, la Clo. On ne parle pas du prix encore. Je te parle sur le pur pour jouer.
Ceci est la meilleure console portable PC que vous trouverez sur le marché. Ne l'achetez pas.
Parce que il y a quand même un gros. Très, très gros hic. Est-ce que tu connais son prix, Adibou?
Oui.
Voilà. Vas-y, au tax.
C'est 1600 balles. Et 1600 balles, c'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est pas contre eux. On sait très bien que c'est la crise de la RAM qui fait que les prix sont horribles. On sait
elle
très
a 32
bien...
gigas de RAM.
Elle a 32 gigas de RAM.
Et ça aide aussi à être...
Et le stockage est aussi, c'est de la flash NAND, donc elle fait aussi partie de la crise. On a 1 téra de stockage ici. Le truc, c'est que aujourd'hui, une ROG Xbox Live X ou Xbox Live classique est encore trouvable à moins de 1000 euros. Ça ne va pas durer, que les choses soient claires, parce que la crise de la RAM, c'est aussi une crise des gestions de stock. J'en parle dans Canard PC Hardware qui est sorti là. Mais aujourd'hui, elle est à 1600 euros, c'est beaucoup trop cher. Demain, la plupart de ses concurrentes vont aussi augmenter de prix. On l'a déjà vu avec le Steam Deck OLED. Mais le fait est que ce que je trouvais intéressant dans cette catégorie de PC console portable, c'est que ça devenait quelque part l'entrée de gamme un petit peu optimisée pour les gens qui étaient dans les consoles avant toute chose, parce qu'on retrouvait ce format, on retrouvait cette facilité d'utilisation.
Moi qui suis très console, j'adore ce format et je joue, je n'ai plus de PC pour jouer vraiment, sauf quand j'en ai en prêt, donc c'est ma version PC pour jouer.
Voilà.
Vraiment,
et
mon magasin Steam
balles,
est très content dessus.
C'était mortel.
Sur le prix des premières ROG Ally ou de la Xbox ROG Ally, c'était génial.
Ouais. Mais
j'avoue
aujourd'hui...
que c'est un super produit pour travailler, pour jouer. Moi, je le connecte à ma télé si j'ai envie de jouer avec ma télé et je rajoute des manettes dessus, une, deux, autant qu'on veut. C'est super. À 1600 balles,
j'avoue que c'est juste ça. Sur un PC gamer d'entrée de gamme, tu peux en trouver un avec un RTX 5070 qui va t'envoyer une patate incroyable. Et même au-delà de ça, je trouve qu'on sous-estime beaucoup le marché de l'occasion sur cette catégorie, parce que la plupart des gens qui achètent n'ont pas forcément conscience que c'est un PC derrière et peuvent être frustrés très vite et envoyés en occasion très vite. Il y a des bons plans de fou à se faire sur cette catégorie en occasion. Notamment les ROG oui. Xbox Ally X, on peut les trouver à 400-500 aujourd'hui, les ROG Ally X classiques aussi, qui ont un niveau de performance toujours très satisfaisant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages pour cette console, notamment le fait d'avoir l'Intel XeSS 3, donc les technologies d'upscaling et de création de trames qui sont largement supérieures à ce qu'il est disponible chez AMD aujourd'hui, quand bien même on attend toujours le FSR 4 qui, lui, est un peu mieux encore. Et ça aide beaucoup, notamment pour des personnes comme toi qui connectent à la télé ou ce genre de choses. Ça c'est
ça
vraiment...
Ça, pour confort, c'est quand j'ai envie de jouer à mes jeux Steam.
C'est une qualité graphique sur la console qui est largement supérieure. Ça se voit tout de suite. En plus d'avoir de meilleures performances. Mais voilà, 1600 euros.
C'est le seul... C'est dommage. On est passé à ça.
D'oublier
de la première. Et de dire ce produit est vraiment bien, et c'est vrai qu'il est vraiment bien.
Ceux qui chialent le plus, je pense, c'est MSI, quoi. Parce qu'ils ne s'attendaient pas. Ce produit a été créé avant que la crise de la RAM soit là, c'est très clair. Ils n'avaient clairement pas prévu que ce soit au-delà des 1000 balles. Ou alors vraiment 1000-1100 max, quoi, histoire de dire. Quoi.
Elle est meilleure. Elle est meilleure que les précédentes. Elle est
c'est
plus
la meilleure à ne pas acheter.
Elle tient beaucoup plus longtemps, sauf si vous la poussez à bout, comme Taxou. Mais en usage standard.
Même poussée à bout, elle est bien. Hein.
Vraiment l'autonomie, Wi-Fi 7, la RAM, elle coche vraiment
l'ergonomie,
toutes les cases.
Largement meilleure que tout ce qu'a fait MSI jusque-là.
Parce qu'elle est très inspirée de la ROG et notamment de ce fameux biseautage des mains pour la paume des mains qui fait que même les petites mains pour moi, devant, derrière. Les touches macro à l'arrière que vous pouvez customiser, c'est pareil, elles tombent hyper bien sous les doigts.
Mieux que le
Xbox,
elle ne
fait, pour le coup. Elle fait moins de bruit aussi quand je joue et que je la pousse. Et d'accord. Ça, mine de rien, c'est quand même appréciable de ne pas avoir une centrale nucléaire ultra bruyante dans les...
Les sticks sont un poil mous, manque de tension un petit peu.
Ouais, ça c'est plus pour toi, moi ça m'a
la
moins gêné.
Alors je le dis pour les autres parce que moi je suis un gars chill, donc
voilà,
ça ne me dérange pas. Mais beaucoup de gens le notent et je trouve que la croix directionnelle, il y a
un peu raide, moi.
Elle est raide et je trouve qu'elle est un petit peu trop creusée et qu'elle manque d'un dôme un petit peu plus surélevé pour pouvoir faire des bons quarts. Mais c'est en amélioration.
Ça, c'est parce qu'il est méga.
Je suis un gars de la base.
Mais voilà, si vous avez les fonds, honnêtement, vous voulez bien que ça aussi pour jouer un peu de temps en temps et même travailler à côté, parce qu'on le dit tout le temps, c'est pas le truc le plus pratique, je continue de le dire, mais vous pouvez connecter un clavier et une souris sans fil.
C'est un PC.
Et c'est un vrai PC, pour le coup, et un bon PC.
Ouais, très bon PC.
Donc, si vous avez les sous pour un combo, les 1600 balles passent pas pareil.
Il y a un profil sur ma chaîne qui est ressorti pas mal sur cette catégorie-là et qui, je pense, pour le coup, ça se justifie un peu plus. C'est les routiers, notamment, parce qu'ils ont besoin d'un PC, mais qui veulent jouer quand même, parce que la plupart du temps, ils se font chier quand même, faut pas se mentir. Et du coup, ils ont de quoi faire leur mail, leur petit truc rapidement et jouer tranquille, confort, dans le pieu, dans l'hôtel.
C'est pour ça que je disais, c'est un investissement qui peut se justifier.
Ouais,
je parle très vite de produits qui n'ont absolument rien à voir, mais c'est parce que quand on a fait l'émission Nintendo, on n'a pas eu le temps, parce qu'on voulait faire un truc pour partir en vacances ou en camion là-dessus. On avait parlé Nintendo Switch et je voudrais vous parler d'un produit que j'avais montré en
CES.
Tu te souviens, au CES. Pour tous les gens qui ont des Switch 2 et qui veulent partir et qui ne veulent pas faire comme nous, craindre que leur console portable vive ses mauvais jours dans un sac, il y a de plus en plus de cases faciles. Celle-là a un avantage, elle a une batterie intégrée. Et donc, vous pouvez recharger ce petit socle-là. Vous pouvez recharger votre petite Switch 2. Vous pouvez même le sortir pour jouer, si j'y arrive d'une main, ce qui est toujours extrêmement pratique. Donc voilà, tout ça est une petite batterie qui permet
stylé,
à la
ça,
console de se recharger.
Mortel.
C'est mortel, vous pouvez évidemment embarquer plein de jeux, mettre tous vos câbles et tout. C'est 80 euros quand même, celle-là.
Ouais, mais c'est une batterie plus une sacoche. Donc.
Si vous voulez moins encombrant, juste pour votre Switch, parce qu'évidemment, j'ai oublié de mettre ma Switch dedans, on a ces Belkin aussi. Ça, c'est une coque avec une batterie supplémentaire, parce que voilà, chez Nintendo, c'est pas les pros de la batterie non plus. Pour les Joy-Con renforcés, ça, c'est extrêmement pratique. Ça coûte plus cher parce que la batterie, elle est longue durée derrière. Ça, c'est 85 euros aussi.
Vous pouvez le faire en impression 3D, regardez mécanisme. Pardon.
Ça suffit. chez Belkin. Et parce qu'il y a aussi des marques qui arrivent avec des accessoires qui sont bien faits. C'est Oniverse, qui est une jeune marque qui fait cette coque. Et alors ça, je m'adresse aux parents qui en ont marre des câbles et des machins qui traînent dans tous les sens. Non, ça ne sent pas le vécu.
à peine.
Vous pouvez embarquer tous les jeux ou demander à votre enfant toute l'année de mettre tous ses jeux là-dedans et ses câbles. Hop, est-ce qu'on la voit bien ? Je vais mettre là pour la caméra. Regardez tout ça, vous pouvez en mettre partout et tout ranger pour que rien ne traîne dans le salon de la console. Et ça, pour le coup, ça existe en version un peu plus light. Et celle-là, on est entre 13 et 20 euros. Pas du tout le même prix. Univers, allez faire un tour. Il y a plein d'accessoires, plein de gadgets. Mais voilà, pour les parents qui veulent partir avec la Switch 2 pour avoir la paix pendant les vacances, j'avais quand même pas mal d'accessoires. Je voulais vous en parler.
Si je peux me permettre un petit big up d'une marque, parce que moi, pour le coup, les sacoches, je trouve que la plupart sont un petit peu trop épaisses et tu as l'impression d'avoir un sac à main dans le sac à main. Je suis tombé amoureux d'une marque qui, pour le coup, est spécialisée dans faire les sacoches les plus fines et les plus résistantes possibles. Ça s'appelle Tom Tok. Dispo un peu partout, c'est dans les 20 balles à chaque fois, 30 au grand maximum, et vraiment je ne compte plus que sur eux aujourd'hui quoi. Donc gros big up sur toutes les consoles portables, que ce soit Switch 2 ou ROG Xbox, MSI qui arrive bientôt j'espère, parce que j'en ai vraiment besoin. Tom Tok, c'est validé de fou.
C'est noté et validé par Otaxu. Merci beaucoup messieurs.
Merci Mélinda.
D'être arrivé jusqu'ici pour faire ce petit bilan de ce début d'année. Ça a été quand même très très dense quand même, hein, mais il y avait des jeux. Et il y avait des beaux jeux et on est
Il y en a encore voilà. Tant de jeux.
Otaxu, on te retrouve sur ta chaîne.
Tout à fait, youtube.com/otaxu, O-T-A-X-O-U.
Pour maltraiter du matériel aussi.
De la nerderie absolue. Là, j'avoue que j'ai pas mal de choses dont je ne peux pas parler dans les bacs, mais il y aura pas mal de Switch 2 qui va arriver sous peu sur la chaîne pour optimiser au maximum pour les hardcore gamers. Mais voilà, sinon c'est de la nerderie absolue, vous connaissez quoi.
Les bons conseils de Tonton Otaxu sur sa chaîne. Adibou aussi, merci beaucoup
merci
d'être venu. On te retrouve aussi toi, partout, avec tes cartes.
Ouais, effectivement, sur Twitch, donc twitch.tv/Adibou, c'est pour les new jeux vidéo. Donc on reste dans cet univers-là. Par contre, sur Instagram, Mister Adibou. Ah là, c'est carte
sur table.
Exactement.
C'est extrêmement drôle ce qu'il fait.
C'est très drôle. Suivez-le avec Madame, qui a tout le mérite et tout mon soutien.
Excessivement bien la comédie, j'avoue. Elle carie beaucoup mes réels.
Acteur studio de fou chez les Adibou. Merci en tout cas à tous les deux pour cette émission qui ne sera pas tout à fait la dernière avant l'été, mais sera la dernière en plateau parce qu'on vous a réservé pour avant les vacances, eh bien l'interview des créateurs de Tetris. Et oui, Alexey Patinov et Hank Rogers, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer et d'interviewer pour parler de ce jeu qui, 40 ans plus après, fait encore un succès dingue, avec des petites infos très intéressantes, comme par exemple, sachez que la musique du jeu, eh bien, c'est eux qui en sont propriétaires désormais. Et voilà, vous apprendrez pourquoi. Okay. Mondialement connu, bah c'est à eux maintenant les droits.
Jouer à Puyo Puyo Tetris, c'est la vie, les amis.
Et voilà, ça commence.
Le gros versus.
Ça commence.
Les vrais jeux, je suis désolé. Rhythm Paradise Groove.
Et bah, ah, mais oui, on devait parler de Rhythm Paradise Groove, on devait parler de Evo 2, tous les petits jeux à faire.
On
n'a
parlé que
notamment.
De vrais jeux vidéo. Moi, tant qu'on parle pas de GTA 6, ça me va bien.
Bah, tu reviendras.
On s'en fout de GTA 6, soyons honnêtes. Voilà, bon.
Vous savez qu'Otaxu ne reviendra pas parler de GTA 6. Et pourtant, on en parlera à peu près 10 500 fois d'ici là, malheureusement, parce qu'on attend toujours un trailer 3. En attendant, ce sera pour les vacances, vous verrez quand on ne sera pas là. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech, la chaîne YouTube BFM Tech et sur la plateforme RMC BFM Play, évidemment en podcast partout. Et puis vous pouvez écouter toutes les autres aussi avant, ça nous fait plaisir. Et en attendant, jouez bien parce que là, vous avez de quoi faire avant donc la rentrée. Et GTA 6, on leur a dit une dernière fois. Allez, jouez bien et à très vite.